Merci. Donc je vais vous parler de la façon dont le travail déborde sur le hors-travail. D'une part, comment il s'étend au-delà de sa durée théorique, légale, ou même de ce qui peut paraître sa durée pratique à propos du temps de travail. Dans une deuxième partie, j'essaierai de voir comment le travail va chercher des ressources dans le hors-travail à propos d'un exemple qui est celui de l'informatique des utilisateurs standards, c'est-à-dire pas des gens qui fabriquent Linux et Apache, dont on a parlé hier, mais des utilisateurs comme vous et moi. Et je terminerai par quelques interrogations sur les évolutions. Ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que ces problèmes de rapport et entre travail et hors-travail sont des problèmes qui ne concernent pas simplement un individu affronté à la limite entre son travail et son hors-travail, mais que pour les comprendre, il faut se placer dans un cadre un petit peu plus collectif. À propos du temps de travail, donc... Premier point que je vais essayer d'aborder, c'est le fait que le temps de travail n'a pas seulement une étendue, il a aussi une forme, et que selon cette forme, il déborde plus ou moins. Ensuite, qu'il n'a pas seulement une forme, il a aussi un contenu, et que ce contenu va faire qu'il va plus ou moins déborder sur le hors-travail. Et puis enfin, que cette question de temps de travail n'est pas seulement un fait individuel. Alors bien sûr, le temps de travail, c'est un fait collectif dans l'entreprise, mais c'est aussi un fait qui a des aspects collectifs hors de l'entreprise. On a la chance en France d'avoir eu une expérience sur le temps de travail, qui est la réduction du temps de travail, les lois sur les 35 heures. C'est doublement une chance, d'abord parce que quand même pour la majorité des personnes concernées, ça s'est traduit par un sentiment d'amélioration de leur vie quotidienne, mais aussi parce qu'on a pu voir les raisons qui ont fait que pour certains, ça ne s'est pas du tout traduit par un sentiment d'amélioration, mais par un sentiment de détérioration. Et c'est très directement lié à la forme du temps de travail qui en est résulté. Lorsqu'on a eu un temps de travail morcelé, une RTT qui ne s'est pas faite sous la forme de journée ou de demi-journée, mais de petites plages de temps, surtout lorsque ces petites plages se sont faites d'une façon plus aléatoire, surtout lorsque la visibilité et la prévisibilité des horaires de travail s'est détériorée à l'occasion de cette réduction du temps de travail, alors à ce moment-là, il en est résulté une détérioration de la vie quotidienne rapportée par les personnes concernées. Et par conséquent, bien que en étendue, le temps de travail se soit restreint, la forme qu'il a pris a fait qu'il a davantage débordé sur le temps du hors-travail. Mais la forme, l'organisation, comme on dit, du temps de travail n'est pas la seule raison de ces débordements possibles. Sur ce graphique, vous pouvez voir, si vous êtes au premier rang, apercevoir si vous êtes au milieu de la salle, si vous êtes au fond de la salle, je crois que vous devrez me faire confiance, le lien entre l'intensité du travail mesurée par le nombre de contraintes de types différents sur le rythme de travail et les difficultés de conciliation entre vie professionnelle et engagements familiaux et sociaux. A priori, les engagements familiaux et sociaux, on peut penser que ça dépend uniquement du temps libre. Mais non, ça dépend très fortement aussi de l'intensité du travail. Plus cette intensité est grande, plus il est difficile de concilier le travail et la vie hors travail. Alors, on peut penser que bon, c'est lorsque le travail est intense, c'est simplement qu'on rentre fatigué du travail. C'est plus compliqué que ça. Parce que si on introduit, en plus de l'intensité, le degré d'autonomie dans le travail, donc vous voyez sur le graphique, il y a quatre catégories, haute autonomie et une ou aucune contrainte de rythme, c'est-à-dire une intensité faible, haute autonomie et une intensité forte, autonomie faible et intensité faible, autonomie forte et intensité forte. L'autonomie rapportée par les personnes dans leur travail a encore plus d'influence que l'intensité sur les possibilités de concilier la vie de travail et la vie hors travail. Alors, ce qu'on voit sur le graphique, c'est des chiffres bruts, mais je vous rassure, il y a eu des études économétriques pour s'assurer qu'il n'y a pas d'effet de structure, comme on dit, derrière, et que c'est réellement un effet propre du contenu du travail. Autrement dit, lorsque, pour reprendre la terminologie qui est à la fois celle de Yves Clos en psychologie ou qui était celle de Friedman en sociologie, le travail est trop petit pour le travailleur, eh bien, ça rapetisse le travailleur et ça rapetisse ses possibilités d'intervention sur la vie, dans la vie hors travail, et il en est tout à fait conscient. Enfin, dernier point sur les débordements du travail, le temps de travail n'est pas un fait uniquement vécu par l'individu tout seul. Alors, je vais partir d'un paradoxe bien connu, c'est celui qui a été expliqué par Jonathan Gershuny. Actuellement, la durée du travail des classes dominantes, qui était plus faible que celle des classes dominées, est devenue plus élevée. Ce qui est quelque peu étonnant. Est-ce que ça voudrait dire que le temps libre serait devenu un bien inférieur, alors que par ailleurs, on a une profusion de biens et services d'une autre sorte? Donc, il y a beaucoup d'explications à cela. Je vais considérer uniquement celles qui concernent mon sujet. Il y a une première explication qui correspond à ce que je viens de vous dire, qui est que les salariés du bas de l'échelle ont plus souvent des horaires atypiques, donc qui déjà par eux-mêmes débordent sur le temps libre. Il y en a une autre qui est plus profonde et qui est liée au fait que le temps de travail n'est pas un fait individuel. C'est qu'en fait, le bien recherché ne serait pas tant le temps libre que du temps libre synchronisé avec le temps libre des autres, et notamment des proches, et en particulier la synchronisation des temps, notamment dans les couples. Et Lénard, dans un papier récent, a montré le lien qu'il y avait entre la synchronisation des horaires dans les couples et la liberté qu'ils ont dans le choix de l'organisation de leur temps de travail. Lorsque les gens ont la liberté de l'organisation de leur temps de travail, les horaires sont synchronisés dans le couple. Lorsque ça n'est pas le cas, eh bien, évidemment, ça dépend de comment ça tombe. Et dans un autre papier récent, Lénard et de Saint-Paul ont établi une typologie, je vous la livre sous une forme extrême, partielle et simplifiée, du temps de travail des couples. Il y a les couples où les deux ont des horaires standards, des couples dans une variante où les semaines de travail sont longues, et puis il y a les semaines décalées, c'est-à-dire que ça n'est pas l'horaire standard, c'est décalé, et ça n'est pas forcément décalé de la même façon pour les deux, et il y a les semaines fragmentées, où de même, ça n'est pas fragmenté forcément de la même façon pour les deux. Vous voyez que dans les cas des semaines décalées et fragmentées, la synchronisation des horaires est beaucoup plus faible, ça correspond beaucoup plus souvent, bien entendu, à des horaires imposés aux deux conjoints, et vous voyez que ça concerne des catégories pour lesquelles le niveau de vie est beaucoup plus faible. Autrement dit, si les catégories favorisées peuvent accepter des horaires de travail supérieurs, c'est avec une large compensation qui est la synchronisation des horaires, observée là avec leur conjoint, mais probablement c'est un phénomène plus général que ça. Donc vous voyez que le temps de travail ou le temps de non-travail, c'est un bien qui n'est pas un bien individuel, il prend sens au sein d'un réseau. Ce qui nous amène à considérer, je pense, avec attention ces évolutions qui résultent des dernières enquêtes du ministère du Travail. Vous voyez sur une quinzaine d'années une augmentation qui est assez considérable du travail habituel de nuit, du travail habituel du dimanche et du travail habituel du samedi. Ben, si on a en tête ces questions de synchronisation, on peut se demander si lorsqu'on arrive à des taux qui sont de l'ordre de 7%, 12% pour le travail de nuit, pour le travail du dimanche habituel, et 27% pour le travail habituel du samedi, est-ce qu'on ne s'approche pas du seuil où la nuit ne sera plus la nuit, le dimanche ne sera plus le dimanche et le week-end ne sera plus le week-end? C'est-à-dire que le bien social qui est l'organisation du temps quotidien et du temps de la semaine sera quelque chose de profondément remis en cause. Alors j'en viens maintenant à un autre aspect de mon exposé qui est la façon dont le travail va en quelque sorte puiser des ressources dans le hors-travail pour s'exécuter. Donc je vais prendre un exemple, qui est un exemple parmi bien d'autres, qui est ce mouvement extrêmement impressionnant si on y songe, qui fait qu'au cours des années 80 et 90, on s'est mis très largement, pas tous, mais une bonne moitié de la population active, à utiliser des ordinateurs. Comment on a fait ça? Est-ce que ça rentre dans le modèle standard de l'économie, qui est qu'on forme du capital humain? Alors on le forme en partie hors du travail. De ce point de vue, ce que je vous dis n'a absolument rien d'original, c'est la formation initiale et continue. On le forme aussi dans le travail, par l'expérience, et puis avec ce capital humain, on travaille. Alors ce modèle est suffisamment général pour qu'il ne soit pas, proprement parlé, invalidé par l'exemple de l'utilisation de l'informatique dans le travail. Mais on va voir qu'il faut quand même l'interpréter dans un sens un petit peu particulier pour faire rentrer ce qui se passe complètement dedans. En fait, pour utiliser l'informatique, les gens ont très très peu fait appel à des connaissances spécifiques formelles, à des formations formelles. Ces formations ont été rares et leur impact est pratiquement négligeable pour la masse des utilisateurs. Ils ont beaucoup fait appel à des connaissances générales. Là, on est tout à fait dans le modèle du capital humain. La lecture rapide, un minimum de connaissances de l'anglais, c'est des choses qui s'avèrent en fait très importantes. Et ils ont aussi fait appel à des choses qui rentrent... faut étendre un peu le modèle du capital humain pour le faire entrer dedans, qui sont des dispositions culturelles. Le goût de l'apprentissage autodidacte, c'est très inégalement partagé. Il y a aussi la croyance en la science et en la technique. Si vous pensez que l'informatique, c'est beau, eh ben, vous arrivez à de meilleurs résultats. Il y a aussi la croyance dans les effets de la science et de la technique. Si vous pensez que maîtriser l'informatique, ça va booster votre carrière, vous arrivez à de meilleurs résultats aussi. Il y a aussi la confusion entre la science et la technique. Si vous pensez que votre informatique d'utilisateur, c'est la science avec un grand S, ça vous motive davantage que si vous regardez ça un peu de haut. Alors vous voyez que ça met en jeu des questions de position sociale. Il faut être suffisamment haut. Si vous avez une scolarité très désagréable et que vous êtes plutôt en bas de l'échelle socioculturelle, vous n'aurez pas beaucoup de croyance en la science et en la technique, ou d'adhésion du moins. Si vous êtes trop haut, vous allez considérer que bon, c'est pas tout à fait non plus digne de vous, en tout cas que ça vous apportera rien. Donc, si on peut dire, la meilleure configuration pour devenir un utilisateur expert, c'est d'être quelqu'un qui a suivi des études suffisamment longues, qui a une position sociale suffisamment élevée, mais pas trop. Qui à la fois a un niveau un peu intermédiaire et en même temps qui a une espèce de revanche à prendre sur sa trajectoire, qui a quelque chose à espérer de ce qu'il va investir dans l'usage de l'informatique. Alors est-ce que ces espoirs vont être déçus ou satisfaits? Je peux vous dire que souvent ils sont déçus, parfois ils sont satisfaits, mais là n'est pas la question. C'est vraiment une question d'histoire sociale de la personne. Oui, ça n'est pas la seule chose qui joue également beaucoup son capital social, c'est-à-dire que les gens n'ont pas utilisé l'informatique tout seuls et leur utilisation dépend vraiment beaucoup du réseau qu'ils ont pu mobiliser pour ça. Alors, il y a différentes sources d'aide possibles. Il y a les collègues proches, ça c'est une aide inconditionnelle, elle est quasiment jamais refusée, mais ça permet d'assurer au minimum le travail quotidien. Si on veut aller un petit peu au-delà, et souvent beaucoup de gens ont quand même été assez... créatifs à leur niveau dans les usages qu'ils ont fait de l'informatique. Si on veut aller plus loin, il faut mobiliser un réseau plus grand, qui est le réseau des collègues éloignés, surtout des réseaux hors du travail, en particulier des réseaux amicaux. Et ces réseaux-là, on ne les mobilise pas comme ça. Ça n'est pas du tout une aide inconditionnelle. Ça se place dans le cadre d'échanges, alors qui sont des échanges généralisés, qui, selon le modèle classique du don contre don, ont tendance à s'ignorer comme tel. N'empêche que ce sont des échanges. Il faut beaucoup donner à ses amis, et en particulier, il faut beaucoup donner en service culturel pour obtenir de l'aide en retour dans le domaine de l'informatique. Donc vous voyez que là, il y a également un aspect collectif qui est extrêmement important dans quelque chose qui pourtant a l'air de relever tout à fait du travail quotidien. Et donc ça amène, non pas à invalider, mais à préciser un petit peu ce modèle de capital humain. On peut préférer, bon, c'est pas le plus fondamental, la notion de capital culturel, parce que ça fait vraiment appel à des choses qui se sont formées de façon en partie involontaire au cours de la trajectoire, et non pas entièrement un investissement rationnel. Les gens n'ont pas fait exprès, par exemple, de ne pas aller au bout des études ou de la carrière qu'ils auraient envisagée pour devenir de meilleurs utilisateurs de l'informatique. N'empêche que ça a bien eu une influence. Et ce qui est important, c'est de voir qu'intervient donc dans cette exécution du travail à la fois la trajectoire sociale des personnes, alors la trajectoire sociale absolue, le niveau auquel ils sont parvenus, s'ils ont suivi que des études élémentaires et qu'ils sont ouvriers non qualifiés, la probabilité qu'ils deviennent des utilisateurs experts et même des utilisateurs tout court est extrêmement faible. Mais également la trajectoire relative, comment ils se situent par rapport aux autres et comment ils se situent par rapport à leur origine et à leurs aspirations. Donc c'est vraiment, il y a toute l'épaisseur sociale de la trajectoire de la personne qui intervient là. Et puis il y a également l'aspect de réseau qui intervient aussi de façon importante. Donc sur cet exemple-là aussi, on voit que la question de la frontière entre le travail et le hors-travail, ce que le travail va chercher dans le hors-travail, ça n'est pas un phénomène qu'on comprend vraiment bien si on reste à un niveau purement individuel. Pour terminer, je voudrais poser avec vous quelques questions. Alors, la première, c'est celle de savoir si la frontière est de moins en moins nette entre le travail et le hors-travail. J'avoue que je suis un peu embarrassé pour apporter des éléments de réponse, parce que, un, je ne suis pas historien, ce qui n'est pas grave, après tout, ça ne m'empêche pas de parler, mais il y a des historiens dans la salle et à la tribune, donc là, c'est plus gênant. Alors, je vais simplement vous donner ce qui est une opinion là-dessus, je ne prétends pas que ça soit plus, et puis vous m'apporterez peut-être des réponses plus précises. Il me semble que si on raisonne sur le très long terme, on ne peut pas dire que la frontière est plus floue maintenant qu'il y a un siècle ou un siècle et demi. Le travail, ça reste quand même une catégorie bien constituée, bien encadrée par toutes sortes de dispositions légales, réglementaires, conventionnelles, ce qui était beaucoup moins le cas à d'autres époques. Et si on regarde, si on songe à ce qui pouvait se passer dans le travail artisanal ou encore plus dans le travail agricole, il me semble que la frontière reste quand même relativement nette. Par contre, je pense, avec la probabilité là que je ne me trompe pas est un petit peu plus forte, que sur le dernier quart de siècle, la frontière s'est quand même pas mal brouillée. Et quelques indices, la flexibilité du temps de travail lié aux choix d'organisation, que ce soit des choix d'organisation économique globaux ou des choix d'organisation économique locaux au niveau des entreprises ou des services. Il y a un autre point que je n'ai pas mis sur le diaporama, mais l'exposé de Florence m'y a fait penser, c'est la flexibilisation de la gestion des ressources humaines, qu'il ne faut pas exagérer, mais qui est quand même réel et qui fait qu'il y a de plus en plus de travail invisible qui est consacré à gérer sa propre carrière. Il y a le rôle croissant du capital social et du capital culturel informel, dont je vous ai donné un exemple dans le cas de l'informatique, mais c'est plus général que ça. On le voit dans lorsqu'on étudie l'emploi ou lorsqu'on étudie les salaires. Et puis, il y a aussi les nouvelles technologies et leurs usages. Et par exemple, en 2005, 12% des salariés utilisaient l'informatique pour travailler à domicile. Alors bien sûr, une partie de ces 12% travaillait déjà à domicile avant, mais une partie ne le faisait pas, et ces nouvelles technologies qui font circuler de façon très fluide l'information, qui est quand même notre matière première principale dans les économies actuelles, favorisent le brouillage de la frontière. Et puis, il y a aussi, je pense, le nouvel esprit du capitalisme. Je n'ai pas le temps de m'étendre là-dessus, mais je pense que les projets et les réseaux, c'est quelque chose qui n'a pas de raison de se limiter à un univers défini comme un univers de travail, et que ceci qui est plus qu'une idéologie, qui est une idéologie qui se traduit aussi dans des modes d'organisation pratiques, est de nature à brouiller la frontière entre travail et hors travail. Face à ce brouillage, il y a des effets pervers de ce qui se passe, c'est-à-dire qu'au fond, moi j'ai essayé de vous convaincre que la frontière de travail hors travail, ce n'était pas quelque chose d'individuel, mais c'est quand même très largement géré comme ça. Deux exemples d'effets pervers. Le premier, je l'ai déjà évoqué, c'est les laissés pour compte des 35 heures. Il y a énormément d'études donc, qui nous montrent d'une part que les 35 heures, ça a été bénéfique pour la très grande majorité des travailleurs, et d'autre part, ça a été assez catastrophique pour d'autres. Ces autres ne sont pas distribués au hasard. Ce sont ceux qui, pour des raisons économiques, des raisons sociales et des raisons politiques, n'ont pas eu de représentation collective suffisante, donc dans certains segments de la main-d'œuvre, et également, même dans les entreprises où on a négocié, les gens qui n'étaient pas bien représentés par les syndicats se sont retrouvés parmi ces laissés-pour-compte dont la vie quotidienne s'est dégradée. Il y a un autre point qui est la question, c'est un autre exemple, mais on peut en trouver d'autres, qui est la question, la façon dont sont traitées les questions de genre au travail. Alors j'ai laissé prudemment en blanc parce que je fais partie d'une, comme vous l'avez remarqué, d'une minorité à cette tribune. c'est sans doute un hasard, mais à toutes les sessions, à la tribune, il y a au moins une moitié d'hommes, et en général une large majorité, sauf lorsqu'il est question du hors-travail. Donc ce qui vous prouve que la division des rôles sexuels à la vie dure, même parmi nous, encore plus dans le reste de la société, et on a quand même des choses étranges, qui est que les gens nous disent, et nous disent de plus en plus, on voudrait un partage des tâches plus égalitaire dans le couple, dans la famille, etc. On constate dans les enquêtes emploi du temps que ce n'est pas trop le cas. Alors on peut dire, ben, les gens ils sont hypocrites, ils prétendent qu'ils veulent faire des choses, et puis en fait non. Mais c'est pas, bon, sans doute, un peu, mais ce n'est pas la seule raison, parce que par ailleurs, ben, vous avez peut-être lu ou entendu ça récemment, il y a une enquête de l'Adresse sur qu'est-ce qui se passe quand il y a un enfant malade, qui nous montre bien que les entreprises considèrent que c'est normal que la mère s'absente, mais ce n'est pas du tout normal que ce soit le père, que les instits appellent la mère et non pas le père, etc. Alors, bon, vous avez d'un côté des gens qui peut-être voudraient un partage du temps de travail et du temps de vie familiale plus égalitaire entre l'homme et la femme, mais qui sont face à des entreprises dans lesquelles ce n'est pas organisé comme ça. Et puis vous avez aussi des entreprises qui, de leur côté, ne peuvent pas décider unilatéralement qu'on ne va pas utiliser cette division du travail et donc l'offre de travail que les gens proposent en conséquence, parce qu'il faudrait se coordonner entre l'entreprise qui emploie l'homme et l'entreprise qui emploie la femme. Et donc chacun de son côté, ni les travailleurs ni les entreprises, ne peut tout seul changer quoi que ce soit. Donc on est dans une situation de blocage qui n'est pas une situation d'optimalité, parce que la gestion individuelle de la frontière travail-hors-travail ne peut pas dépasser ce blocage. Et pour conclure, deux petites questions. La première résulte directement de ce constat, c'est quelle régulation pour la frontière entre travail et hors-travail ? Alors bien sûr, il y a des tas de régulations, il y a des lois, il y a des règlements, il y a des conventions, il y a toutes sortes de choses. Manifestement, ça ne suffit pas. Donc quelle nouvelle régulation inventer dans un nouveau contexte ? Et puis, deuxième point, puisque c'est le sujet de ce colloque, j'ai essayé de vous montrer que les personnes sont au travail et sont hors travail avec toute une histoire sociale et aussi avec des caractéristiques collectives. Le genre en est un exemple. Et donc, comment le métier peut-il ou va-t-il, parce que je pense qu'il le peut, mais que ça ne va pas de soi, intégrer la diversité de ces histoires sociales et les dimensions collectives telles que le genre, et il y en a bien entendu d'autres. Je vous remercie.